Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde où le pouvoir est majoritairement aux mains des hommes, restent souvent invisibles ces femmes qui, à talent égal, ont pourtant tous les droits d'être aussi en haut de l'affiche. Ainsi en est-il du domaine des sciences, par exemple. Univers hyper masculin où rares sont celles qui réussissent à s'imposer. À qui la faute ? L'éducation ? La tradition ? La résignation ? Tout cela, sans doute, est une forme de déterminisme qui se transmet encore aujourd'hui, où le genre féminin est plus conduit vers les lettres que vers les chiffres. Et puis parfois, dans cette société organisée, surgit une exception qui allierait les mathématiques et la littérature, la robe et le savoir, et dont on pourrait dire qu'elle est la fille parfaite. Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce nouveau roman paru aux éditions POL, intitulé donc « La fille parfaite », un titre derrière lequel se cachent en fait deux filles qui chacune à leur façon visent la perfection. Adèle, mathématicienne de haut vol, et Rachel, écrivaine à succès. Deux personnalités, deux amies depuis l'enfance qui, tels Janus, le personnage mythologique, ou Persona, le film de Bergman, sont les deux visages, les deux cerveaux d'un idéal, la connaissance absolue. Quel est le point de départ de ce roman ? Est-ce que c'est le constat amer d'un monde toujours binaire et donc l'envie d'explorer un autre possible à condition de traverser les frontières, de transgresser les genres, et ce, à travers le parcours croisé de deux amis?
Alors, je crois qu'il n'y a pas d'amertume au point de départ de ce livre, mais beaucoup d'observations, de la fréquentation, c'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes femmes, un peu par hasard, qui se destinaient à des carrières scientifiques, voire scientifiques et industrielles, c'est-à-dire dans des univers vraiment très concurrentiels et très masculins, et qui y allaient avec leur fraîcheur, leur candeur, leur blondeur. Bon, j'en ai vu quelques-unes comme ça, et je les trouvais incroyables. Moi qui suis résolument littéraire, j'ai beaucoup d'admiration pour des femmes et des jeunes filles qui vont vers les sciences, parce qu'il me semble que c'est un monde plus difficile d'accès, où la place des femmes est plus petite et où il faut faire preuve d'une ténacité et d'une ambition vraiment très forte pour se faire une place, justement. Et c'est au nom de cette observation-là, qui est une observation à la fois empirique, de tous les jours, et puis après, je me suis renseignée un peu plus, je me suis documentée, j'ai lu des choses. Donc c'est au nom de tout ça que j'ai voulu raconter cette histoire à deux visages, où en effet, il y a une volonté de conquérir le savoir absolu, le savoir total, qui serait à la fois et littéraire et scientifique, qui évidemment est un savoir tellement total qu'il en est absolument inaccessible. Mais il y a chez mes deux jeunes héroïnes, pendant l'adolescence, un défi de cette envergure-là, un défi un peu naïf, mais qui les pousse et qui les mène très haut quand même.
Dès leur rencontre, enfant, Adèle et Rachel s'attirent comme des contraires presque, en raison de leur famille réciproque, tournée l'une vers les mathématiques, l'autre vers les lettres. Mais c'est aussi une admiration liée à un travail, à une connaissance sur des domaines privilégiés qu'elles se transmettent comme des vases communicants. Rachel va choisir un bac scientifique et Adèle va lire des classiques et découvrir Proust. Et puis après, la fusion vient le temps de la compétition, de la rivalité, des séparations. Et parfois, à vous lire, Nathalie Azoulay, on a l'impression qu'il s'agit autant d'une histoire d'amour que d'une histoire d'amitié, tellement il y a de passion dans cette relation.
Oui, c'est vrai. Dans la mesure où c'est une amitié qui commence à l'adolescence, c'est une amitié qui est pleine d'enjeux. C'est-à-dire que elle raconte la formation de deux esprits, de deux personnalités qui sont, comme vous l'avez dit, à la fois complémentaires, mais aussi très différentes et parfois opposées, et qui ont en commun de vouloir arriver très loin. Mais cette histoire d'amitié est traversée par des passions très positives, qui sont la complicité, l'affection, enfin tous les liens qui tissent une amitié quand on a 14 ou 15 ans. mais aussi de passions plus négatives qui sont la rivalité, les complexes, parce que je crois que dans toutes les amitiés, et en général quand elles sont fortes d'ailleurs, il y a voilà, le sentiment que l'autre a plus et mieux, et plus grand, et plus belle, et plus intelligent. Bon, surtout quand on est jeune, évidemment, qu'on a des représentations comme ça, puisqu'on est en formation, qu'on est incertain, qu'on est plein de doutes et évidemment tout ça favorise le complexe. Donc j'ai voulu raconter aussi cet envers-là d'une amitié passionnelle, d'une amitié de jeunesse qui se construit pas à pas avec l'affection, avec le positif, mais aussi avec le négatif et qui régulièrement atteint des états de surchauffe.
De fusion, en effet, de au sens presque nucléaire du terme.
Absolument, et qui demande et qui exige de ces deux amis une forme de séparation, de répit, de trêve et de rupture. Donc, il y a dans cette amitié beaucoup d'intermittence.
Est-ce que ce qui les réunit également serait cette envie aussi de sortir du regard de leur famille et de ne pas suivre ce déterminisme auquel elles sont vouées, puisque en effet, Adèle a un père qui ne vit que pour et par les mathématiques, qui après le regret d'avoir eu une fille, hélas, a mis néanmoins tous ses espoirs dans son être, dans ce génie. De la même façon que Rachel a peut-être envie aussi de se singulariser de sa famille où on parle beaucoup autour de déjeuners, de dîners, avec des envolées lyriques, des joutes verbales extraordinaires, et elle choisit un peu le silence. Est-ce que c'est ce qui les tient également ?
Oui, c'est vrai qu'elles ont toutes les deux un déterminisme familial très fort et que, comme toutes les adolescentes du monde, elles sont à la fois très déterminées par toutes ces conditions, mais aussi un peu rebelles. Et donc, elles ont envie de s'en détacher, de faire leur propre chemin. Mais ce sont des désirs qui sont assez velléitaires parce qu'aucune des deux ne va tenir cette rébellion parce que profondément, elles n'en ont pas envie et qu'elles ont quand même, chacune dans leur famille, un socle très fort, très solide auquel s'attacher et qu'elles aiment. Et c'est cette perfection qui est à l'œuvre dans ce livre. Donc cette fille parfaite, c'est celle qui arriverait à conjuguer tous les mondes. Et évidemment, aucune des deux n'atteint cette perfection parce que c'est une perfection difficile à atteindre, voire impossible.
Mais ce que j'entends alors dans ce que vous dites, Nathalie Azoulay, c'est que il y a néanmoins un prédéterminisme ou alors il y a génétiquement quelque chose qui passe d'un parent à un enfant. Le goût de la littérature, par exemple, de Rachel et le goût des mathématiques d'Adèle viendraient de leurs parents respectifs. Mais vous, par exemple, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez résolument littéraire. Ça vient aussi de votre famille ?
Non, pas spécialement. Moi, je n'ai pas du tout une famille qui serait comme une des deux familles du livre, c'est-à-dire très injonctive, avec une volonté de transmission très forte. Donc moi, j'ai bénéficié d'un environnement familial beaucoup plus souple et plus diversifié, en fait. Mais je suis devenue résolument littéraire par mon parcours personnel. Donc j'ai choisi les lettres. Oui, de manière très singulière. Je me suis même un peu distinguée au sein de ma famille. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans ces deux parcours de personnages, c'est aussi la volonté de malmener certains préjugés. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement poussé les filles à faire des lettres parce que dans les lettres, il y a de l'humanité et des humanités. Il y a du contact, il y a de la relation, il y a de la psychologie. Il y a l'autre, en fait. Et on a toujours dit aux filles et aux gens en général que dans les sciences, il n'y avait pas l'autre. Sauf dans des sciences comme la médecine ou la biologie qui sont appliquées à du vivant. Mais dans des sciences dures, c'est vrai que l'autre disparaît. Et en fait, ce qui pousse mes deux personnages, c'est de montrer qu'on peut être une fille et faire et choisir des disciplines où on fabrique de l'autre quand même. Parce que même Adèle, qui choisit les mathématiques fondamentales, raconte souvent, et même en fait un peu un fer de lance, que les mathématiques sont animées par l'humanité. Et en fait, on a traditionnellement l'idée que non, que c'est complètement détaché du monde, mais c'est faux en fait. Toutes les découvertes mathématiques viennent d'expériences humaines. Et donc, voilà, elles arrivent à promouvoir ça et à se détacher des autres filles en fait. C'est ça qu'elles veulent aussi. Hein. Elles ne sont pas des hommes, elles ne sont pas des garçons, mais elles ne veulent pas être des filles comme les autres. Elles veulent être entre les deux.
Et ça, on va y revenir, c'est un point en effet très important. Tordre le cou aux préjugés, c'est en effet une des grandes qualités de ce roman, avec par exemple dans le portrait de ces deux jeunes filles que vous faites, qu'on voit grandir et devenir des jeunes femmes, puisque en parallèle d'un événement tragique contemporain, Rachel raconte Adèle, leur parcours scolaire, amoureux, et puis aussi leur goût pour une culture populaire. Et oui, on peut être une tronche, entre guillemets, pour reprendre cette expression que vous n'aimez pas et que vous fustigez, mais aussi avoir des goûts très populaires. Par exemple, les chansons de Freddie Mercury, du groupe Queen, les films d'action de Catherine Bigelow, première réalisatrice américaine oscarisée. Vous citez également brièvement le personnage de Carrie, de Stephen King, voire un témoignage qui, dans les années 80, avait eu beaucoup de succès. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Ce sont des références dans lesquelles vous vous reconnaissez aussi, Nathalie Azoulay ?
Oui, évidemment, ce sont des références qui me sont familières, ce sont les références de ma génération. Et c'est vrai qu'à la fois dans ce livre, il y a de la culture, je dirais, savante. Hein. Il est fait allusion à de grands auteurs, à des philosophes, à des scientifiques. Mais il y a aussi ce pendant de culture populaire, de pop culture, qui est très important pour moi. Et que ces deux filles partagent, sans doute aussi par esprit de rébellion. C'est-à-dire qu'elles choisissent des icônes qui racontent leur propre parcours. C'est-à-dire des icônes qui sont dans des configurations entre deux sexes, entre deux mondes. Catherine Bigelow, qui est leur héroïne et qu'elle surnomme Big, et cette femme qui joue dans le camp des hommes en faisant des films d'hommes et qui décroche l'Oscar avant toutes les autres et qui a ce courage, ce talent... Et qui les impressionne beaucoup. Donc c'est vrai qu'elles vont vers des références qui leur ressemblent.
Alors puisque vous citez Freddie Mercury et quelques-unes de ses chansons les plus emblématiques, Bohemian Rhapsody évidemment, mais aussi The Show Must Go On, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que vous aimeriez qu'on écoute dans cette émission pour illustrer une fille parfaite ?
Don't Stop Me Now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time.
Sur ce titre de Queen, Don't Stop Me Now, nous reprenons sur RFI dans Littérature sans frontières notre conversation avec Nathalie Azoulay, notre invitée, qui vient de publier son nouveau roman sous le titre La fille parfaite aux éditions POL. Un titre en trompe-l'œil, car ce n'est pas d'une mais de deux filles qu'il est question ici, Adèle et Rachel, et qui pose donc en creux la question de la perfection, ou du moins de l'image, de l'idée qu'on a de la perfection. Est-ce que pour une femme, c'est d'avoir réussi sa carrière, d'avoir un enfant, d'être mariée ? Trois petits points. Quelle est votre définition à vous, Nathalie Azoulay ?
Je dirais que c'est beaucoup de choses à la fois, mais pour revenir au roman, cette perfection, ce serait la conquête d'un savoir absolu, et ce serait surtout d'obtenir ou de travailler à avoir une forme d'intelligence supérieure qui soit proche de la perfection, c'est-à-dire qui soit capable d'aller vers du littéraire comme du scientifique, qui soit capable de naviguer dans les mondes, de tisser des passerelles entre les mondes, et finalement de tout comprendre. C'est-à-dire qu'avec une intelligence pareille, on arriverait à se débrouiller dans toutes les situations et dans tous les univers. Et donc elles ont ce fantasme-là, en fait.
Et qui serait dans un monde idéal, parce que dans le monde réel, il y a un autre paramètre qui arrive, en l'occurrence pour Adèle, c'est d'avoir un enfant. Et avoir un enfant, ça change beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça pose la question de la femme mère dans nos sociétés, une place qui est assujettie à ce qu'Adèle appelle le choix maléfique. Et en quelques mots, voilà ce que vous dites. Pages 264 et 265 de votre roman. Nicolas, mon fils, je l'adore. Je l'aime tellement que je pourrais tout abandonner pour lui. Les maths, la recherche, les prix, toute ma vie. C'est l'ennemi juré de mon ambition. Alors je dois arbitrer en permanence parce que j'ai le choix entre cet amour et le travail. Et ce qu'elle dit plus tard, c'est qu'il s'agit d'un choix maléfique. Je ne sais même pas quelle question poser suite à ça, parce que c'est d'une telle évidence. Mais que dire après ça ?
Le dire déjà, c'est pas mal, parce que par les temps qui courent, ce ne sont pas des choses qu'on dit beaucoup. C'est-à-dire qu'il me semble que si les femmes ont un tel problème avec l'ambition, ce n'est pas uniquement la faute des hommes ou la faute du monde. C'est aussi parce qu'elles sont prises elles-mêmes dans des dilemmes qui sont énormes. C'est-à-dire que quand on met au monde un enfant, on n'a qu'une envie, c'est de rester avec lui, c'est normal. Et pourtant, d'autres choses nous appellent, on a envie aussi d'autres choses. Mais on pourrait rester, toute sa vie, mais disons plusieurs années auprès de cet enfant, le voir grandir. Et c'est en cela qu'il est l'ennemi juré de l'ambition des femmes. Et je pense que... On parle tout le temps de plafond de verre, mais il y a un propre plafond de verre à l'intérieur de nos maisons, en fait, qui est... la volonté de voir grandir un être qu'on adore et qui nous adore. Donc c'est vrai qu'on a envie de s'en libérer sans arrêt, parce que c'est aussi très prenant et parfois très aliénant, mais c'est quand même un lien très fort qui nous retient. Et si les femmes ont tant de mal avec l'ambition, je pense que c'est une des raisons. Et on le dit, bon, vous dites que c'est évident, c'est vrai que c'est évident, mais on ne le dit pas beaucoup.
Et un peu plus loin, Adèle aura un discours encore plus militant en s'adressant à des jeunes femmes de l'assistance en leur disant qu'il faut prendre le pouvoir. Et vous, Nathalie Azoulay, vous êtes militante avec ce roman ou de façon générale ?
Non, je ne suis pas militante parce que je ne me mets jamais derrière ni des groupes, ni des slogans, ni des combats organisés. Mais il me semble que mon roman dit beaucoup de choses sur... l'ambition féminine, sur la place des femmes dans le monde actuel, sur le rapport au pouvoir qui passe aujourd'hui par beaucoup de sciences. Et encore une fois, je pense que c'est très important que les filles y aillent, en fait, et qu'elles n'aient plus peur d'y aller. Mais on comprend pourquoi elles ont peur. Parce que c'est un monde rempli d'hommes, parce que c'est un monde froid, parce que c'est un monde dur, et qu'il faut être coriace pour y faire sa place. Mais il faut qu'elles y aillent, et plus elles iront, et plus elles seront nombreuses, et moins ce sera difficile. Donc... le livre n'est pas militant, parce que je n'écris jamais comme ça, mais en tout cas, il est porteur de plusieurs messages qui m'importent. Je suis mère de deux filles, donc ça m'importe beaucoup. Et je pense que le monde est à prendre, et si on a déjà pris beaucoup, il faut continuer à le faire, y compris dans des bastions qui sont non pas fermés à nous, mais qui nous font peur.
Avec cette nuance également que non seulement il faut être reconnu comme experte dans son domaine, mais aussi, l'une et l'autre effleurent l'idée qu'il faut aussi se distinguer des autres femmes. De la même façon que Rachel dit à un moment qu'elle est devenue une fille qui n'aimait pas les filles. Comme si une forme de féminisme se faisait aussi contre ou sans d'autres femmes.
Absolument, je crois que c'est un des aspects du livre et que vous avez bien reconnu, c'est que dans l'ambition de ces deux filles, il y a une volonté de se détacher d'un groupe qui serait un groupe plutôt passif, plutôt plaintif et qui ne les attire pas beaucoup parce qu'il engendre et il reproduit des attitudes qui font que les filles restent où elles sont en fait. Et elles ont envie d'aller dans le camp d'en face, de sortir de leur champ et de leur pré-carré, et il leur semble que ce n'est ni en se plaignant, ni en en restant comme ça groupées avec toutes les filles du monde qu'elles y arriveront. Au contraire, c'est en allant vers les hommes, en se confrontant aux hommes et en faisant comme eux, en fait. Et donc, elles décident de faire comme eux. Moi, il me semble que plus les filles auront confiance en elles et plus elles feront comme les garçons, et mieux elles iront. Mais les combats sont très avancés. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans les entreprises. On sait que tout ça avance. Et dans le débat public aussi. Alors, tout n'est pas parfait. Il faut encore travailler. Mais il y a des attitudes qui sont positives, en fait, et qu'il faut encourager, et qui ne sont pas des attitudes de dénonciation, d'accusation ou de plainte. Je pense que l'action est le meilleur ami des femmes.
Et donc, utiliser les mêmes armes que les hommes?
Oui, et tu disais les mêmes armes, parce que ce sont des armes qui sont à disposition de tout le monde.
Parlons un peu de Rachel, maintenant, qui est, on l'a dit, universitaire, spécialiste de littérature anglaise et de Virginia Woolf en particulier, qui est un auteur récurrent, qui revient sous votre plume, Nathalie Azoulay, au même titre que Marcel Proust, évidemment. Et comme elle est écrivaine, là, on en arrive à un point très intéressant, tout ce que vous dites de la littérature. Et par exemple, que la littérature est une forme de suture. Ça, c'est via un roman que Rachel a publié et qui permet aux deux amis de se retrouver après une très longue séparation, comme si leur relation avait pu se raccommoder via une fiction. Vous croyez à cette vertu de la littérature ?
Je crois à la littérature comme bras tendu vers le monde. Je crois à la puissance des métaphores qui font des liens entre des univers qui sont des univers distincts. Et là, je reprends évidemment le leitmotiv de Proust. Mais oui, j'ai une croyance dans la littérature, mais c'est vrai que je vois aussi les limites de la littérature, et notamment dans le monde actuel. Alors à la fois, les librairies vont bien, on vend des romans et les romanciers font l'actualité, mais je vois aussi qu'on est dans un monde qui détrône quand même les lettres pour l'intelligence artificielle, pour la technologie. Et je crois que c'est un monde et un moment difficile à passer pour les littéraires, en fait. Moi, évidemment, je suis entourée de beaucoup de littéraires aussi. Certains parlent d'humiliation. Il y a une forme d'humiliation qui n'est la faute de personne. Encore une fois, c'est l'histoire qui avance. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, et par exemple, je ne sais pas, il y a une cinquantaine d'années, les intellectuels littéraires étaient les rois dans le monde. Ils avaient le pouvoir, ils avaient toutes les places. Et aujourd'hui, ce n'est plus exactement comme ça. Et ce roman raconte aussi cette forme d'humiliation, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de doute très tenace qui s'accroche à la littérature et à la culture littéraire aujourd'hui.
Et en même temps, avec un peu de facétie, vous critiquez aussi ce milieu, Nathalie Azoulay, dont vous dites qu'il a été quand même très vaniteux et qu'il s'est vu au-dessus du lot et qui, avec beaucoup de mépris peut-être, a donné sa version du monde. Donc c'est peut-être aussi, non pas un retour de bâton, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient de se rééquilibrer.
Absolument, je pense que les tenants du pouvoir littéraire depuis longtemps se sont crus au sommet. Et quand on pense qu'ils ne connaissent pas la science et qu'ils ne savent pas faire de problèmes de mathématiques et qu'ils ne savent pas résoudre des énigmes qui sont fondamentales pour vivre et pour que le monde tourne, bon, ben voilà, il faut être un peu humble. Donc, c'est vrai que peut-être ça remet les choses à leur place. Et qu'en fait, dans mon roman, personne ne gagne, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est quand même critique des deux côtés, à la fois laudatif des deux côtés, mais aussi critique. Donc, chaque univers a ses limites. C'est bien pour ça qu'il est question de perfection, c'est-à-dire une sorte d'univers qui serait intermédiaire, qui serait tiers, et où tout irait bien. Mais cet univers est un fantasme et un horizon.
Une autre question aussi sur l'écriture qui m'intéresse beaucoup. Là, nous sommes page 309, où Rachel fait une autocritique aussi de son travail d'écrivain. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle parle, par exemple, justement des métaphores. Outre les métaphores, ce qui reste le plus difficile, surtout pour une femme, car les femmes y sont plus sujettes, comme si elles restaient éternellement les petites chéries de leur papa, c'est de trouver la voix juste, adulte, pas celle d'une fillette désemparée, espiègle, ou émerveillée, un ton de voix qui soit sobre et posé, disons en place comme pour chanter. Donc il y a quelque chose en effet d'extrêmement précis, et d'ailleurs à l'image de votre écriture qui est toujours très aiguisée sur le fil. Est-ce que vous avez l'impression avec ce livre que vous avez écrit différemment des précédents ?
Oui, je crois que j'ai choisi d'écrire d'une manière qui soit nourrie d'oralité, qui soit dans une fluidité du quotidien, avec l'idée de croiser à la fois l'enquête type polar, puisqu'il y a quand même une énigme à résoudre, et puis le roman de formation. Je pense que j'ai voulu croiser ces deux fils pour raconter mon histoire. Oui, j'ai l'impression que j'ai changé de tempo, je me suis déplacée, mais en fait, à chaque fois que je commence un nouveau livre, j'ai envie d'une voix nouvelle, de placer la voix différemment parce que j'ai envie d'explorer, en fait. Je n'ai pas envie de raconter ou d'écrire toujours le même livre. Et le passage que vous avez lu là m'intéresse beaucoup, en fait. Enfin, il est très important pour moi. Parce que je lis aussi beaucoup de mes contemporains et contemporaines. Et j'entends parfois, et ça me chiffonne, des voix qui jouent avec une malice enfantine qui m'exaspère, en fait. Et je me dis, je ne veux pas écrire comme ça. Je veux avoir une voix d'adulte. Et certains lecteurs m'ont dit d'ailleurs que c'était peut-être mon premier livre d'adulte. Alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais en tout cas, j'ai cherché un ton de voix qui soit placé, qui soit précis et qui ne minaude pas et qui ne fasse pas un usage abusif de la malice ou de l'espièglerie.
Et encore cette phrase, être écrivain, c'est écrire sur des choses qu'on a observées sans forcément les vivre. Et moi, j'ai envie de rajouter, être écrivain, c'est écrire sur les choses et qu'elles arrivent. Qu'il y a presque une fonction où la littérature peut agir sur le réel. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Azoulay ?
Ben, ce serait formidable si on avait ce pouvoir-là. Alors, il y aurait beaucoup de paragraphes dans ce livre qui seraient caduques. Mais, mais je suis un peu moins optimiste que vous. Mais disons, en tout cas, que moi, si j'accorde beaucoup d'importance au roman et à la littérature de manière générale, c'est parce que j'y vois un outil de connaissance et je me dis, quand j'écris un roman, je veux en fait faire la lumière sur un phénomène, c'est-à-dire je veux lui donner une forme. Alors, tout ce qu'il y a dans ce livre, ça fait longtemps que ça m'anime, ça fait longtemps que j'y pense, mais je n'avais pas encore posé ma lampe, si vous voulez, pour dessiner les contours de cette forme et permettre à mes lecteurs de les identifier avec moi. Donc je me dis que quand on a identifié une forme, quand on l'a tracée, dessinée et qu'on la rend visible aux autres, même si les autres ont pu y penser sans vous, peut-être qu'il y a là un progrès qui fait qu'on apprivoise cette forme, on apprivoise les phénomènes qui sont dedans et peut-être que ça permettra de faire des... Oui, d'avancer, de pousser... de pousser certains phénomènes plus loin et d'esquisser quelques progrès. Je suis un peu modeste là-dessus, mais pourquoi pas.
Mais au début de cette émission, je citais Janus comme la figure double de ces deux personnages dos à dos ou face à face, peu importe, qui incarnerait la relation d'Adèle et Rachel. Comme si aussi de ces deux femmes pouvait naître une troisième femme, la femme de demain, qui, elle, pourrait être la fille parfaite.
Ce serait génial, c'est-à-dire une fille qui saurait à la fois faire avec la part technologique et scientifique du monde et puis ne pas renoncer à lire Proust ou à Virginia Woolf et qui aurait donc tous les capteurs pour justement avoir cette sensibilité extrême. Alors c'est très difficile parce qu'il faut du temps pour faire tout ça et que les journées n'ont que 24 heures et qu'une vie de femme est remplie d'autres choses. Donc peut-être que c'est une femme qui n'existera jamais, mais en tout cas... peut-être qu'on peut aller dans le sens de cet idéal-là.
C'est un rêve, faisons ce rêve et lisons votre livre, Nathalie Azoulay. Je rappelle le titre, La fille parfaite, publié aux éditions POL.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.